Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bonjour Madame Élisée Odia.
Bonjour à tout le monde, bonjour Radio Okapi. Et toutes mes excuses quand même pour ce désagrément. Je suis à l'intérieur du pays et la connexion, elle est vraiment pas top. Et c'est vrai que ça m'a un peu embêté, mais là, je suis contente de retrouver mes auditeurs de la radio onusienne.
Merci, on a compris. Dieudonné Moussa Galoucha, il est coordonnateur national et porte-parole du panel des experts de la société civile. Et bonjour Dieudonné Moussa Galoucha.
Bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être invité par cette radio qui donne l'information la plus objective à tous les Congolais au-delà de nos frontières.
Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Bonjour Monsieur Josué Blaise Mangakak.
Et bonjour Adi, bonjour aux autres panélistes et à vos multiples auditeurs à travers le pays, la RDC et au-delà.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Élisée Odia, journaliste indépendante, Dieudonné Moussa Galoucha, coordonnateur national et porte-parole du panel des experts de la société civile, et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et des géostratégies. Au menu de cette émission, le 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le message du chef de l'État à l'Église catholique et la situation des droits de l'homme en RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur le sommet quadripartite SADC, EAC, CIRGL, CEAC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC qui s'est clôturée mardi 27 juin à Luanda en Angola. En effet, à l'initiative de l'Union africaine, ce sommet avait, entre autres, pour objectif d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix régionales qui impliquent les volets politiques et militaires. Dans les communiqués finaux sanctionnant les travaux, les sommets s'est notamment félicité des réalisations dans les processus politiques, militaires, humanitaires et socio-économiques enregistrés à ces jours par les différentes parties prenantes visant à résoudre les défis auxquels est confronté l'Est de la RDC. Il a félicité Félix Tshisekedi, président de la RDC, et Paul Kagame, président du Rwanda, pour leurs engagements en faveur d'une résolution pacifique des conflits par les dialogues et la médiation sous la facilitation de João Lourenço, président de la République d'Angola. Tout en félicitant la force régionale de l'EAC pour ses efforts dans le rétablissement de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC, le sommet a déclaré être préoccupé par la situation d'insécurité et humanitaire qui prévaut en RDC, exacerbé par les activités criminelles des groupes armés et terroristes. Il a exigé les retraits immédiats et inconditionnels de tous les groupes armés, en particulier les M23 ainsi que les EDF et les FDLR, et appelle à la mise en place des couloirs humanitaires pour faciliter l'aide humanitaire. Madame Élisée Odia, qu'est-ce que les quelques conclusions de ces sommets que nous venons de lire vous inspirent?
J'ai déjà entendu. Ça fait une année qu'on entend cela, un peu plus d'une année d'ailleurs, date à laquelle on a assisté à la prise de Bunagana et ensuite d'autres cités de la République démocratique du Congo. Je crois que on n'attend pas ça de ces différentes structures, de ces différentes organisations sous-régionales. La population congolaise actuellement ne veut qu'une seule chose, c'est récupérer l'intégrité du pays. Alors aucune communication, aucun communiqué avec toutes les bonnes intentions possibles ne peut arriver à satisfaire la population congolaise tant que celle-ci n'aura pas récupéré son intégrité, l'intégralité de son territoire. Donc c'est un peu du déjà entendu et puis c'est tellement protocolaire, c'est juste sur des plans diplomatiques. Quand on sait dans le fond, en tout cas pour quelques indiscrétions, on sait certes que les débats étaient assez houleux entre différentes parties prenantes et que la RDC demandait beaucoup plus que ça, demandait par exemple à ce que toutes ces organisations sous-régionales, en tout cas les forces militaires de ces organisations, puissent passer sous la coupe de l'état-major congolais. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, on se retrouve dans un pays qui n'est... C'est comme si on était un pays dans un pays, une partie du pays qui est dirigée, qui fonctionne sans tenir compte des lois et des règles du pays. Voilà pourquoi moi je dis, le petit commentaire c'est de dire on n'a plus besoin de ça. La population congolaise tout entière n'a pas besoin de communiquer. Il a juste besoin, c'est que cette synergie, si elle tient vraiment à ce qui est la paix à l'intérieur du pays, qu'elle commence d'abord à œuvrer, à militer pour que la RDC, que les autorités congolaises puissent récupérer l'intégralité du territoire national.
Merci, Dieudonné Mouchagaloucha. Vous avez suivi Madame Élisée Odia qui estime que c'est du déjà entendu. Lorsque vous analysez bien ces résolutions, on a l'impression qu'on n'a pas obtenu les résultats escomptés, celui de lever des options claires sur la coordination des opérations sur le terrain. Que répondez-vous à ceux qui disent que la diplomatie congolaise a utilisé toutes ses armes?
Oui, alors des choses importantes à dire tout en saluant l'analyse objective de ma consoeur, de ma compatriote Élisée Odia, qui rentre dans l'analyse globale de la situation, mais il faut saluer tout de même la solidarité internationale ou régionale ou africaine, s'il faut dire ainsi, par rapport à cette option, par rapport à venir en aide à notre pays qui se trouve en difficulté. Mais cette solidarité, effectivement, est due par le fait que notre État est faible, par le fait que nous sommes incapables de pouvoir résoudre les problèmes, de pouvoir endiguer des conflits dans notre pays, armés, politiques ou autres. Et donc, c'est regrettable que la RDC, un grand pays au centre de l'Afrique, puisse subir des situations pareilles, alors que nous avons une armée qui peut être en mesure de récupérer l'intégrité ou de préserver l'intégrité territoriale. Mais malheureusement, les faits sont là, les faits parlent d'eux-mêmes. La RDC, c'est un État faible pour le moment, nous le regrettons fort, ça ne nous fait pas honneur, mais tout de même, il faut saluer la volonté de cette solidarité internationale. Et en même temps, il faut encourager le président de la République, l'ensemble des forces armées, l'ensemble de la population congolaise, pour qu'on puisse conjuguer les efforts afin de préserver l'intégrité territoriale. Nous ne devons pas être toujours un enfant qui doit continuer à pleurnicher devant des situations que nous pouvons résoudre nous-mêmes, ce qui signifie que notre diplomatie est à la fois, s'il faut dire, faible ou n'arrive pas quand même à donner les résultats sur le plan interne, de continuer à gémir et de continuer à solliciter de l'aide à l'extérieur.
Merci, Josué Blaise Zembanakak. Je vous repose la même question. Que répondez-vous à ceux qui disent que la diplomatie congolaise a utilisé toutes ses armes et qu'il faut maintenant envisager des solutions alternatives, pas nécessairement la guerre, hein, d'autres solutions beaucoup plus efficaces et réalistes?
À mon avis, la diplomatie, c'est jamais la fin du tout, parce que chaque solution actuelle n'est pas toujours la solution de demain. Et toute solution dans les négociations est la conséquence du rapport de force sur le terrain. Et moi, je me réjouis plutôt du fait que la négociation s'est faite autour de quelqu'un qui connaît bien les protagonistes. Le président angolais connaît très bien les deux chefs d'État et les réalités sociaux, géographique et géopolitique de la RDC. Maintenant, ceux qui se plaignaient de la présence de l'ONU peuvent se réjouir que c'est les organisations sous-régionales et continentales qui sont à la manœuvre. Donc, on peut se réjouir et féliciter cette option. Bon, moi, je pense toujours qu'en réalité, un problème bien posé a toujours une solution. Est-ce qu'on a bien posé le problème? Est-ce qu'on a su? Et chacun qui vient à une négociation, les différents protagonistes, il y a toujours ceux qui ont le négociable et le non négociable. Des deux parties, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui n'est pas négociable? Au jour d'aujourd'hui, de quel côté se trouve le rapport de force? Parce que la diplomatie, c'est une poupée gonflable qui ne prend que la dimension de celui qui a le souffle le plus fort. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours continuer à négocier. Toutes les guerres, quels que soient les cas, finissent par une négociation et par un consensus. Sinon, faute de quoi, les belligérants, le canon soufflera, c'est les morts qui tomberont. Et en réalité, il est temps que le sang des Africains cesse de tomber par les Africains et pour des causes parfois inavouées.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter Dose Unique, cette nouveauté de Ferré Gola, contenue dans l'album Galaxy, et on revient juste après.
Après la guérison, tout malade devient docteur. Professeur Stéphane. Général Diako. Professeur Pépé et Koulou.
Sur ton corps, je m'envole. Promets-moi aujourd'hui. Toute valeur d'élire. Après tant d'oubli. Rébobine les souvenirs. Immortel d'amour, fais-moi revivre.
Il a mort les têtes, j'ai tant
d'oubli. Docteur,
n'aimez-moi. J'ai une dose. Des copies qui
s'amorient.
Quand je suis près de toi, je suis heureux.
Docteur Justice Ndio.
Tu m'as promis l'amour, tu m'as abandonné. Le bonheur d'une femme, c'est dans les bras.
Docteur Elvis Poula.
Et son mari, aujourd'hui, je suis seul. Nanyako Sepeli Sangai, docteur, les détails.
Oui, amour, les détails, j'ai le temps.
Magin Naga.
Justice Ndio. Et Kobi Kita Moninga.
Yakobi Kita. Moninga aye le
ya mon le keta j'ai tant pis.
J'ai fait
une dose. Moninga.
Honorable Pepe Junatasi, Medo Kambela.
Pepe à moi, mon amour chéri. Tu m'as promis, aujourd'hui je vais manger.
Maître Polycarpe Kaïma.
Les on a collé à Bolingo mort.
Maître Henri Falaya.
Signor Kombe. Luca Kobe à la Chelsea.
Allô chérie, pourquoi tu me fais ça? Je t'attends, je suis pressée que tu rentres. Viens, tu vas voir ce soir.
Bébé, comme on est là, les détails, ça.
Oui, les cas et mes frères.
Il faut que tu m'en aies qu'il faut que tu m'en aies qu'il faut.
Maître Didier Mounangi.
Bolingwe koti matina motema. Sansima anyo so umema oke nanango. Aina lela.
Aibolo.
Aina lela.
Aibolo.
Aina lela.
Aibolo.
Aina lela.
Aibolo.
Aibolo. Aibolo. Sylvain Kitemoko. Mon Sinaï.
C'était Ferré Gola dans Dose Unique et contenu dans l'album Galaxy. On revient à la côté de cette semaine. La RDC a célébré ce vendredi 30 juin 2023 son 63e anniversaire de l'indépendance. Cependant, si les pays étaient l'une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, actuellement il est compté parmi les pays les plus instables et pauvres du continent. C'est le constat de plusieurs historiens interrogés par Radio Capi à l'occasion de cet anniversaire. Ils font un parallélisme entre la vie sociale des Congolais d'avant 1960 et ceux d'après cette année. Avant 1950, raconte David Van, 40% des Congolais étaient salariés et 60% des enfants allaient à l'école. Les salaires étaient en pleine augmentation jusqu'en 1956 avant de régresser ensuite. Élisée Odia, vous êtes journaliste indépendante. Vous avez souhaité nous parler de la célébration du 63e anniversaire de la RDC. On vous écoute.
Déjà, peut-être dire ce qui a été dit par l'historien que je respecte du reste, mais comparer ce Congo d'il y a 63 ans au Congo actuel, sans tenir compte de ce boom démographique que connaît le Congo, je crois que c'est un peu disproportionné. Certes, on peut dire qu'il y a un grand écart entre la manière dont nos parents, nos grands-pères vivaient avant l'indépendance et la manière dont nous vivons actuellement. Et je ne suis pas partisane, en tout cas, de ceux qui pensent que c'était mieux avant. Mieux avant, c'était quoi? C'était l'esclavagisme. Mieux avant, c'était une domination des colons. Il n'y a rien qui vaille que l'indépendance ou la liberté. Donc rien que pour ça, rien que d'être libre, de pouvoir s'exprimer, de ne pouvoir pas être assujetti par des colons, pour moi, ça a été une grande victoire. Alors aucune comparaison ne peut arriver à me ôter cela de la tête, à me dire que c'était mieux avant. Non, c'était pas bien il y a 63 ans. Il y a 63 ans, nous étions un pays qui était dominé. Nous étions un pays où nos parents ou nos arrière-grands-parents étaient assujettis. Aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant et un pays libre. Donc, aucune comparaison en termes d'emploi, en termes social ne peut me faire refuter cela. Après avoir dit cela, je dis effectivement, on est indépendant. Peut-être politiquement, on l'est. Administrativement, on l'est. Sur le plan de la réflexion, c'est vrai, on a aujourd'hui cette indépendance dans la réflexion, dans la manière de faire des choses, mais on reste quand même un peu dépendante dans beaucoup de domaines. On a peut-être juste changé de dépendance. Actuellement, la population congolaise, le peuple congolais ne dépend peut-être plus des colons, mais je me dis que les colons aujourd'hui ne sont plus des hommes bleus, ne sont plus des hommes habillés en culotte, en papillon. Aujourd'hui, les colons sont les politiques de notre pays, les gouvernants qui ont créé une certaine dépendance parce que la population aujourd'hui est assujettie. On parlera peut-être de ce qui s'est dit. Aujourd'hui, on parle de la privation des libertés. Aujourd'hui, on parle de non-respect des droits humains. Et ça nous fait rappeler exactement ce que les colons blancs faisaient subir à nos aïeux. Et je crois qu'on a juste là en train de changer des dépendances. C'est plus l'homme blanc qui est en train d'assujettir l'homme noir. C'est l'homme noir qui est en train d'assujettir. C'est le Congolais lui-même qui est en train d'assujettir un autre Congolais parce qu'il n'arrive pas à mettre en place les réformes qu'il faut, parce qu'il n'arrive pas à mettre en place les mécanismes qu'il faut pour que ce Congo puisse aller de l'avant. Autre dépendance que je voulais dire, c'est le Congolais à l'endroit envers d'autres pays africains. Juste un exemple, c'est cette dépendance, par exemple, que le Congo actuellement a envers la Zambie, par exemple. Vous avez suivi récemment qu'il y a eu pénurie dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que le Congo n'arrive plus à produire aujourd'hui. C'est le Grand Congo qui se trouve être dépendant de la Zambie en termes de maïs, de l'Afrique du Sud, parce qu'il n'arrive pas à produire. Donc certes, on a eu cette indépendance qu'on ne peut égaler, qu'on ne peut comparer à aucune autre chose, mais on a recréé une autre forme de dépendance envers où ça a été fait sciemment par les politiques à cause de la mauvaise gouvernance, à cause de la mauvaise gestion, mais également cette dépendance de la République démocratique du Congo à l'endroit ou envers d'autres pays africains qui, surtout en termes d'autosuffisance alimentaire ou en termes d'alimentaire, et qui fragilisent encore un peu plus notre pays.
Voilà, donc on retient, selon vous, que nous sommes, on n'est plus dépendant, n'est-ce pas, des colons blancs, mais on est maintenant dépendant d'une autre forme de colonisation, c'est nos frères congolais dont nous dépendons actuellement. Et justement, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que cette classe dirigeante congolaise qui a succédé aux colons, aux blancs, n'a pas pu relever les différents défis auxquels faisaient face les pays après l'indépendance?
Je crois qu'on peut dire qu'il y a la volonté qui manque. La volonté, tout le monde la proclame. Les politiques la proclament. Tout le monde dit « j'ai la volonté de bien faire ». Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'arrivent pas à passer à l'acte. Donc il y a cette mauvaise foi qui caractérise la classe dirigeante de notre pays. On a tendance à croire que tout se fera de par soi-même. Il n'y a pas cette façon, cette volonté dans la classe dirigeante de faire revenir le Congolais dans le travail. La loi du moindre effort. on ne sent pas cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? C'est comme si tout devait être beaucoup plus facile, la facilité. Quand vous entendez, par exemple, les millions qui sont détournés chaque jour ici au pays, vous vous dites, mais c'est le même pays où on compte plus de 27 millions des enfants malnutris, mal nourris dans ce pays. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent détourner l'équivalent des enfants mal nourris dans notre pays. Donc, il y a cette mauvaise foi qui caractérise la classe dirigeante. Il y a cette façon ce manque de volonté qui ne permet pas à ce que le pays, ou qui ne permet pas à nos dirigeants de travailler pour que le pays puisse aller de l'avant. Je ne sais pas à quoi sommes-nous butés, mais il n'y a pas des réformes qui sont engagées. Vous sentez qu'il n'y a pas cette volonté de faire revenir les Congolais au travail, il n'y a pas cette volonté de pousser les Congolais à essayer de s'intéresser, par exemple, à retourner au niveau de l'agriculture, par exemple. Écoutez, tout pays qui arrive à se développer, il a d'abord commencé par l'agriculture. Aujourd'hui, aller dans le budget de l'État, par exemple, combien on affecte à l'agriculture de mon pays? Mais allez-y maintenant dans tout ce qui est dépenses des institutions. Vous trouverez qu'il y a dépassement budgétaire au niveau de la présidence, dépassement au niveau de l'Assemblée nationale, dépassement au niveau du Sénat, dépassement au niveau du gouvernement. C'est-à-dire, là où il y a la consommation, c'est là où on trouve le dépassement. Mais là où il faut produire pour ensuite assurer le développement du pays, on sent qu'il n'y a pas la volonté, on sent qu'il n'y a pas une détermination dans les chefs des autorités et dans la classe dirigeante pour essayer de booster. Le budget investissement, il est combien? Et ça, ça pose problème. Je crois que s'il y a la volonté, pas la volonté qu'on proclame, mais la volonté qu'on transforme en acte, on pourrait arriver à changer beaucoup de choses.
Merci Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur national et porte-parole du panel des experts de la société civile. Élisée Odia a parlé des problèmes, des déficits, des volontés de la part de la classe dirigeante qui gère ces pays depuis son indépendance. Mais est-ce que seule la volonté peut suffire? Lorsqu'on est animé de bonne foi, lorsqu'on a cette bonne volonté et que les contextes dans lesquels on a évolué, les contextes national ou international dans lesquels on a évolué ne vous a pas permis, n'est-ce pas, de concrétiser cette volonté-là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce qu'il y en a qui pensent que ces dirigeants qui ont succédé aux Blancs ont trouvé un contexte, n'est-ce pas, laissé par les Blancs, un contexte presque piégé dans ce sens que ils ont obtenu l'indépendance sur le plan théorique, mais dans les faits, l'indépendance n'était pas encore acquise.
Oui, il faut signaler effectivement que j'apprécie beaucoup l'analyse de Odia, comme toujours. Quand ça ne marche pas, nous comme acteurs de la société civile, comme défenseurs des droits humains, et comme artisans de la paix, gardiens des valeurs démocratiques, les valeurs citoyennes, nous avons l'obligation à ce moment-là de rappeler ce qui nous dirige, de ce qui ne marche pas, de ce qu'ils doivent faire comme devoir, de ce qu'ils doivent respecter comme engagement, mais aussi de se conformer aux textes qui nous régissent, de se conformer aux lois de la République, ce qui nous oblige à tout moment de pouvoir dénoncer tout ce qu'il y a comme violation des droits humains, tout ce qu'il y a comme violation des libertés fondamentales, tout ce qu'il y a comme non-respect de l'état de droit, parce qu'effectivement, ce qui est à la base de cela, ce qui fait que nos frères africains, nos frères congolais, les dirigeants de notre continent et de notre pays ne respectent pas les droits de l'homme, ne respectent pas leurs engagements, c'est parce que de temps en temps, on se retrouve devant une situation où on ne rappelle pas ce qu'ils doivent faire, et quand on les rappelle, on est considéré comme anti, comme contre-pouvoir. Pourtant, cela rentre dans notre rôle. Et donc, il faut signaler que cette action-là, cette manière, cette léthargie ou cette oppression des dirigeants qui ne respectent pas leurs engagements nous oblige, nous, comme acteurs de la société civile, de pouvoir dénoncer, de pouvoir les rappeler ce qu'ils doivent faire pour, première chose, l'intérêt du pays, pour l'honneur de la RDC, pour la dignité de l'Afrique, mais aussi plus pour améliorer leur image. Puisque quand on considère actuellement ce qui se passe dans notre pays, la RDC en termes de respect des engagements, en termes de respect de l'état de droit prôné par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut considérer que la situation est tout à fait délabrée, la situation est lamentable, la situation est catastrophique. Nous sommes dans un recul terrible en termes de violation des droits humains, en termes de respect de l'état des droits. Quand on considère les arrestations, quand on considère les enlèvements, quand on considère la répression des manifestants, quand on considère l'usage disproportionné des forces lors des manifestations, quand on considère la procédure dans les arrestations, dans la détention, quand on considère comment est-ce que les services de sécurité ces derniers temps commencent à s'immixer dans les arrestations des civils, où la constitution ne permet pas que quelqu'un puisse être gardé à vie pendant plus de 48 heures. La volonté l'a toujours été manifestée, l'a toujours été prononcée, et l'a toujours été dite par des promesses, par les discours de campagne, par tout ce qu'il y a comme ce que les dirigeants nous donnent comme espoir. Mais malheureusement, ils ne respectent pas cela. Et quand ils ne respectent pas cela, c'est pour cette raison que je rappelle que nous avons l'obligation de les rappeler, nous avons l'obligation de pouvoir les dire ce qu'ils ont donné comme promesse, mais nous avons aussi l'obligation de pouvoir concourir, de pouvoir contribuer à les aider à pouvoir bien gouverner, et raison pour laquelle effectivement j'ai bien parlé de notre devoir, j'ai bien parlé des respects, des textes, j'ai parlé des droits fondamentaux qu'il faut toujours respecter.
Merci Josué Blaise Mangakak. La débâcle que les pays africains ont connue après les indépendances est faite uniquement du manque de volonté de la part de la classe politique, comme l'a défendu Élisée Odia.
Je crois qu'elle est parfaitement dans le mille. D'abord, je me réjouis que les deux précédents intervenants soit de cette catégorie d'Africains qui aujourd'hui, en juillet 2023, parce que demain, on va faire le procès de tout ce qu'on veut, faisons d'abord le procès introspectif de nos nations. Il y a une catégorie d'Africains aujourd'hui dans beaucoup de pays francophones, malheureusement, populistes, qui passent le clair de leur temps dans les réseaux sociaux et dans certains médias propagandistes, à la solde de la Russie, qui pense que tous les malheurs des peuples africains francophones les viennent de la France. J'écoutais avec beaucoup d'attention les deux précédents intervenants. Personne n'a pu dire que les malheurs de la RDC les viennent de l'étranger, tout au moins de la Belgique. Donc, qu'on cesse de comparer que l'époque coloniale était préférable à celle d'aujourd'hui. La question que je pose, et je me pose toujours, et que je pose aux autres, de quoi les pays africains aujourd'hui, tout au moins francophones, dont les populistes sont devenus des haut-parleurs, de quoi souffrent aujourd'hui le plus ces pays? Est-ce de l'excès de la présence française ou de la mal-gouvernance locale? Je crois que je milite pour la deuxième hypothèse, qui veut dire le manque de routes, les classes pléthoriques, les hôpitaux inexistants, la corruption qui est devenue une tradition, la prostitution des mineurs, la gangrène de la pauvreté. Aujourd'hui, vous voyez un pauvre dans les rues des capitales africaines, vous avez l'impression que c'est un déphasé mental, que c'est un fou, alors qu'il est tout simplement pauvre. Il dégouline de sueur, avec habillé en haillons, pendant qu'il y a une minorité d'une petite bourgeoisie kleptocrate assis dans des beaux quartiers, qui sont d'accord avec le discours des populistes, de dire que la direction nationale n'a aucun problème, mais que tous les malheurs viennent de l'étranger, de la France, du Macron et de tout ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, la manette, la classe dirigeante, que ce soit en RDC ou ailleurs, est responsable à 90% du bonheur, du malheur de leur population. On ne peut pas aujourd'hui, moi, Josué Blaise Mbangakar, supposé contrôler tous ses sens, mais dire en 2023 que le malheur de notre peuple vient de Macron, de l'Élysée, de la France. C'est totalement stupide. Et que, heureusement, ce discours-là tient de la classe moyenne en descendant et de quelques diplômés, je parle des diplômés qui, généralement, ont des papiers en réalité qui sont juste des certificats de traversée des classes à l'académie et non la connaissance et le savoir. Parce que si on était tous à la même hauteur, les dirigeants africains seraient beaucoup plus... Parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont un peu dans l'option de l'aquarium. Pendant qu'ils pensent qu'ils sont en train de tourner à l'intérieur d'un bocal, ils pensent que le bocal, là, c'est l'ensemble du monde. Ceux qui sont à l'extérieur de ces bocals, qui sont plus sensés que vous, voient vos limites et pensent que ces discours ne traversent pas et n'arrivent pas à l'efficacité. En réalité, c'est un discours de faible. Continuez à penser que 63, 64 ans après, les malheurs des peuples africains viennent de l'étranger est un discours totalement stupide. Vous verrez que depuis un temps, quels sont les pays sérieux qui sont déstabilisés par ces discours? Aucun. Quand vous allez dans les pays africains, vous avez plutôt des problèmes du troisième mandat, des problèmes d'autres choses, mais pas des problèmes du colon qui est encore présent. Le colon ne pousse personne à venir avec un troisième mandat. Le colon n'amène personne à changer de constitution. Le colon n'amène personne à s'entourer de son ethnie et à gérer le pays de telle manière que quand il n'est plus là, regardez l'ensemble des pays francophones. Aujourd'hui, après le père, ce n'est pas le fils. Vous pensez que c'est là, c'est la France. C'est la résultante du déficit du rapport de force interne, extérieur, parce qu'on passe plus de temps à parler du colon que de régler des problèmes internes et inverser le rapport de force de telle manière que quand les dirigeants africains seront que nous allons à une réunion comme dernièrement à Paris, si nous allons là-bas et que nos peuples sont en rupture avec nous, même à Macron, nous allons dire que mon frère, là vous savez, monsieur le président, vraiment à la prochaine réunion, je ne suis pas certain d'être là parce que mon peuple exige ceci, exige cela. Mais on saute le verrou national pour aller à l'étranger. Hélas, j'applaudis des 10 doigts la première intervenante qui a su mettre le doigt là où ça fait mal. Les questions internes sont beaucoup plus prioritaires que par rapport à la question coloniale.
Merci, merci. On prend une petite pause avec Cri du Congo, chanson composée par le feu Cardinal Echaou qui parle justement de l'indépendance de la RDC. Et on revient juste après.
Lali, tomo e posa nata, mo ili e kimi poka. Baike ba kufi ba martir pona ekolo akongo. Ipai bozali ke bozambe repose pe zambe.
Soba na ya kongo, invitation ya ngoyo heyelela. Zamba pe si boboto, apokisi ya ye rendez-vous. Ça y est, to changeo la y est, to moye pena. Azara wa biso, seku.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la tripartite de Luanda. Nous avons également parlé du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Participe à cette émission, Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Monsieur Dieudonné Moussagaloussa, il est coordonnateur national et porte-parole du panel des experts de la société civile. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Le président Félix Tshisekedi a déploré dimanche 25 juin à Mbujimayi une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Il l'a déclaré à la fin de la messe des célébrations du jubilé d'argent d'ordination épiscopale du Mgr Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbujimayi. Le président qualifie cette dérive de dangereuse, surtout en cette année électorale. D'après lui, l'église doit être au milieu du village. Ici, je suis tenté de dire que l'église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité, a-t-il noté. Josué Blaise Mbangakak, vous avez opté pour ce sujet. On peut savoir pourquoi.
Disons qu'il faut déjà savoir que le lien entre religion et politique, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis même presque les 2000 ans qui ont suivi. Vous savez bien l'histoire du Vatican à Rome et là où le Vatican a pu mettre Pierre sur toi, je bâtirai mon église. Tout le monde connaît l'histoire, ceux qui cherchent. Donc le rapport entre la laïcité et le non laïque toujours a été conflictuel et parfois cohabite quand c'est faux. Alors le cas de la RDC est spécifique parce que ça a toujours eu un rapport avec l'église, un coup j'étais moi non plus. Un coup, c'est pas l'amitié. Depuis l'époque même des grandes théories théologiques telles que Kibangu, qui lui-même, après le règne de sa femme et de ses enfants, le kibanguisme a été au centre, pas du village, mais au centre de la politique en RDC, l'église catholique pareil. Or, à un moment, on a connu aussi même à l'époque de Mobutu le rapport avec Monseigneur Maloula, archevêque de Lumumbashi, ce n'était pas toujours... il avait le temps et le ton qu'il faut pour recentrer le débat national. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a eu la malchance de s'attaquer à une institution très forte dans laquelle il ne faut jamais s'attaquer de façon frontale comme ça, mais qu'il faut plutôt poser des actes pour lesquels l'Église catholique est désarmée pour pouvoir prononcer quoi que ce soit. Parce que du moment où on voit des candidats dont on reproche la nationalité du père pour le cas de Katumbi, dont on essaye de parler des listes électorales, parfois on revoit des doublons. La CENCO se retrouvera au centre justement du village pour faire l'arbitrage. Et je crois que le président Tshisekedi a trouvé la belle expression. L'église est au centre du village, au centre c'est-à-dire qui règle la circulation, qui a son point de vue à dire, qui a son mode de fonctionnement, basé sur ce qui est clair. Si c'est pas clair, faut que si l'Église cesse de jouer le rôle de l'arbitre, vous imaginez les dérives que le peuple ne peut plus avoir quelque chose. Donc, si on peut dire, la conférence nationale de l'épiscopat, la Senko, au Congo, est dans son rôle. Elle mérite même d'être encouragée. On a beau dire société civile, l'Église catholique en fait partie de cette société civile. Elle vit dans la cité, pourquoi elle ne prendrait pas position lorsqu'il y a des dérives dont l'Église catholique doit être applaudie des dix doigts en tant qu'agent régulateur de la société d'un pays dont la CENCO est dans son rôle.
Et au Cameroun, d'où vous intervenez, comment se présentent les rapports entre le clergé catholique et le gouvernement?
L'Église au Cameroun, ça a toujours été perçue d'un côté comme de l'autre, comme un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et puis la spécificité du Cameroun avec la RDC, c'est différent. Vous avez une forte population musulmane dans le nord, dont les imams ont une ascendance très forte sur leurs ouailles, et vous avez une forte population catholique qui est aussi faite de protestants. Et à la différence que, par exemple, le cas du Cameroun, le premier président était musulman, dont il avait une capacité à aller beaucoup plus tranquille vis-à-vis de l'Église, parce que chaque chose qu'il faisait, il passait tout par les monseigneurs Jean Zoua, l'archevêque de Yaoundé, pour lui demander est-ce que cette option serait la bonne, parce que les catholiques et les chrétiens dans leur ensemble étant pratiquement 80% de la population, même lorsqu'ils voulaient enlever vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Toussaint en novembre, il disait à Monseigneur Zoua, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il y a eu donc maintenant le cardinal de Douala qui est décédé par son âme, le cardinal Toumi que j'ai eu à interviewer plusieurs fois. Il m'a dit une chose. Vous voyez, le président Biya, c'est quelqu'un qui respecte énormément l'Église catholique. Quand le pape lui donne la communion, vous savez comment il fait, il a genoux sur un oreiller avant de prendre sa communion. Il m'a dit, lorsque vous me voyez prendre une position publique, dans les médias internationaux ou nationaux, j'ai pris soin d'en parler déjà à deux avec le président Biya. Donc les gens qui me voient comme un opposant se trompent énormément. C'est pour ça que je n'ai aucun problème avec le président Biya, parce que tout ce que je dis en public, je lui dis d'abord à deux. Maintenant, lorsque je vois que ça ne prospère pas, je prends une position publique en tant que cardinal et patron de l'Église catholique au Cameroun pour essayer d'aiguillonner, de régler la circulation pour qu'on n'aille pas dans un précipice ou dans le fossé. Dans les rapports, Toumi a été perçu par les autorités camerounaises, des ministres, des autres, comme étant quelqu'un, et l'Église catholique à l'époque, et même maintenant, elle prend des positions quand c'est nécessaire, et c'est ça qui a été comme ça. L'Église catholique au Cameroun n'est pas différente de celle de la Côte d'Ivoire, de celle du Bénin. Monseigneur Toumi a été un cardinal rebelle. Or, au Cameroun même, on a eu le cas de Monseigneur Dogmont. C'est vrai qu'il était un agent double qui s'est mêlé à la rébellion, mais pour venir trahir le leader de l'opposition Ernest Ouandé par la suite. Donc, l'Église catholique au Cameroun, comme ailleurs, elle joue toujours un rôle au centre du village.
Merci. Dieudonné Moussa Kaloussa, comment vous réagissez à ces messages du chef de l'État à l'endroit de l'Église catholique?
Bon, la réaction, je crois que mon frère Blaise Josué vient d'écrire ça. Donc la réaction du chef de l'État, on comprend que effectivement il a les soucis de pouvoir constater, de pouvoir aider à ce que les choses marchent bien. Mais quand le président de la République prononce des paroles pareilles, où il utilise plus les pronoms personnels, tout en lui reconnaissant toutes les prérogatives constitutionnelles en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, mais on a compris qu'il en fait un problème personnel, donc ça devient déjà une menace vis-à-vis de l'Église catholique, et nous pensons qu'une menace pareille n'est pas productive ni pour la cohésion nationale, ni pour la bonne marche des institutions, moins encore ne garantit pas les libertés et ne favorise pas l'éclosion de la liberté. Mais au-delà de cela, nous pensons que le président de la République s'est plus substitué à la justice quand il utilise les pronoms personnels et DG. Nous avons bien décrypté cela, et nous, comme acteurs de la société civile, si vous le permettez que j'en parle plus par rapport aux menaces par rapport à la liberté, c'est une menace réelle vis-à-vis des forces vives, vis-à-vis de la société civile dont l'Église catholique fait partie. Et nous ne pouvons pas accepter que cela puisse demeurer ainsi. Et donc, nous avons l'obligation, comme je le disais tantôt, de pouvoir aider le président de la République à ne pas permettre à ce que son image puisse être considérée comme un dictateur, raison pour laquelle nous continuerons à pouvoir interpeller, à pouvoir dénoncer, à pouvoir monitorer tous ceux qui peuvent contribuer à la détérioration de son image et tout ce qui peut contribuer à faire le recul de la démocratie. Et donc, le message du chef de l'État, nous ne l'avons pas bien accueilli, on doit le dire en toute sincérité, tout en lui faisant honneur, tout en lui faisant toutes les révérences possibles, mais c'est une menace réelle. Et je ne pense pas que le président de la République a pris une bonne option, parce que l'Église catholique, elle est pérenne, mais nous savons que le pouvoir est passager. Donc l'Église restera toujours là, au milieu du village, l'Église restera toujours du côté des opprimés, l'Église restera toujours dans l'équité et dans l'éthique pour pouvoir dire ce qui ne marche pas comme l'ensemble de la société civile, et donc proférer des menaces pareilles à l'endroit de l'Église. Je crois que ceux qui ont eu l'occasion de parler avec le président de la République, son entourage, ne l'ont pas aidé à pouvoir prononcer un discours pareil et à la veille de l'indépendance.
Merci Élisée Odia. On se rappelle le rapport entre le cardinal Maloula et le maréchal Mobutu, le rapport entre Tchaou Mosengo avec les Kabila père et fils. Donc les divergences ont toujours existé, comme l'a rappelé Josué Blaise de Mangakak. Mais quelle peut être, à votre avis, la particularité des rapports aujourd'hui entre Félix Tshisekedi et le cardinal Ambongo, pour que le chef de l'État tienne ce discours ferme à l'endroit de l'Église catholique?
Malheureusement, l'actuel chef de l'État est sur le même chemin que ses prédécesseurs. Et alors que beaucoup s'attendaient à ce qu'il puisse faire autrement les choses et agir autrement, surtout face à l'Église, et pas n'importe lesquelles, on parle de l'Église catholique. Mais je voulais revenir tout au début de l'émission, on parlait de l'indépendance, on parlait de la colonisation, et on sait le rôle qu'a eu à jouer l'Église dans la colonisation. Et depuis, dans la précolonisation, je pense à mon avis que l'Église, en tout cas l'Église catholique, s'est donnée comme mission d'essayer de réparer certains préjudices causés pendant la colonisation. Beaucoup, à l'époque de la colonisation et même après la colonisation, ont toujours reproché à l'Église d'avoir fait les jeux du colon, du colonisateur, d'avoir laissé le colon revenir, d'avoir laissé le colon essayer de marcher sur nos cultures, sur notre mode de vie, sur notre façon de voir les choses. Et je crois qu'après la colonisation, l'Église catholique a commencé une procédure ou un processus de réajustement de tir, de changer. Et depuis, on parle de l'Église au milieu du village. Et non, moi je prendrais plutôt l'expression de Monseigneur Chollet quand il dit l'Église est du côté du peuple. Quand on dit l'Église au milieu du village, certains pensent que non, l'Église doit être dans les ninis. Non, l'Église prend position, sauf qu'il prend position en faveur du peuple, ce peuple qui souffre, ce peuple qui est dans la pauvreté, cette population qui vit la misère, qui vit dans des situations compliquées. Alors, quand l'Église ne fait que répéter ce qu'il dit depuis le départ du colon, depuis, juste après la colonisation, c'est le même discours. Suivez, que ce soit Maloula, Etiao, Mosengo et aujourd'hui Ambongo, vous verrez que le discours de l'Église catholique n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il poursuit un objectif clair et net, c'est l'amélioration des conditions sociales, des conditions de vie de la population. Et tant que cet objectif ne sera pas atteint, il ne faut pas s'attendre à un autre discours que celui-là. Pour autre chose, j'ai l'impression que les hommes politiques, surtout de la RDC, utilisent souvent l'Église pour accéder à certains positionnements. L'actuel président, c'est quel a été le rôle de l'Église en 2016 notamment, quand il y a eu des marches des laïcs, CLC, quel a été le rôle de l'Église qui en a payé un lourd tribut. Donc c'était pas à Félix Tshisekedi, fils, de tenir de tels propos à l'endroit de l'Église. Quoi que juste après, il a essayé, je crois que c'est la partie du discours qui a été aussi passée sous silence, il a essayé de dire que non, il continuera à travailler main dans la main dans l'Église, mais je crois que la première partie n'avait pas sa place dans son discours. Et surtout également, ce qui m'a encore interpellée, c'est le cadre, l'endroit. Là, pour une communicologue que je suis, je trouvais que c'était inopportune de tenir un tel discours, des tels propos dans son fief, j'allais dire le fief un peu tribal du président, le fief ethnique du président, un fief pratiquement acquis à sa cause. Je crois que c'était pas un bon message lancé à l'endroit des milliers et des milliers de catholiques, parce qu'il faut pas oublier, l'église catholique ou les fidèles catholiques, c'est compte en milieu. Je crois que c'est la première religion. Les fidèles catholiques sont de loin plus nombreux ici en République démocratique du Congo. Donc, je me dis, le président de la République ne doit pas oublier d'où il vient, ce qu'ils ont eu à faire ensemble avec l'église catholique pour qu'il arrive où il est maintenant, et qu'il a eu peut-être à rassurer l'église que non, une fois au pouvoir, je ferai les choses différemment. Mais malheureusement, et comme c'est souvent le cas avec les hommes politiques, qu'une fois au pouvoir, on oublie toutes les promesses qu'on a eu à faire avant. Peut-être qu'on pense que à se maintenir au pouvoir, mais l'église catholique également reste ferme. Comme vous voyez, dans notre pays, les hommes changent, ils changent des discours, mais l'église catholique reste avec un discours qui est toujours constant. Quand vous faites bien les choses, il le dira, mais quand vous faites mal les choses, ils continueront à le dire et à les décourager. Donc moi, je demande au président de la République avoir un faire un bras de fer avec l'église catholique n'amènera à rien, avec les prêtres, ça n'avancera à rien, bien au contraire, la République démocratique du Congo actuellement a besoin de l'église, comme d'ailleurs hier et comme ce sera demain, aura besoin de l'église, parce que vous savez, moi par exemple je suis dans l'arrière-pays, vous ne trouverez peut-être pas des centres de santé, mais vous trouverez un côté, non loin de là, l'église catholique qui assure le soin de santé. Merci. Vous serez par exemple là, l'église qui est là dans beaucoup de paramètres, donc je crois qu'il est avantageux pour l'actuel gouvernement, l'actuel président de la République, d'essayer de revenir à la raison qui... Pourquoi pas de faire un mea culpa, de dire que non, mais les propos tenus n'étaient pas tout à fait bons à l'endroit de l'Église qui lui a, je ne veux pas dire tout donné, mais qui a quand même travaillé, qui a tout fait pour qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse assister à l'alternance ici au pays. Et aussi, peut-être là je veux terminer, dire qu'aujourd'hui il y a une rupture de confiance, c'est-à-dire la manière d'agir de nos politiques aujourd'hui fait en sorte que la population n'ait plus confiance aux politiques, parce que les politiques sont là, quand ils sont à l'opposition, ils disent autre chose, une fois au pouvoir, ils changent de comportement, ils font exactement ce qu'ils étaient en train de dénoncer, alors que l'Église, elle reste constante dans ses propos et dans sa manière d'agir.
Merci, on prend une petite pause avec Aminata, cette chanson de la reine Aïcha Koné, et on revient juste après.
Aminata, oui, Kanaka, si bien voilà. Aminata, on va aller. Aminata, Kanaka si bencola. Aminata, Omani, Yombeni yele lukala bolo. Aminata, Kanaka si bencola. Aminata, Oteri, Yombeni yele lukala bolo. Aminata, Kanaka bale dekora baliyama. Aminata, Yani kabale dekola. Aminata. Aminata, Kanaka si bencola. Aminata, Oteri, Yombeni yele lukala bolo. Aminata, Kanaka si bencola. Aminata, Oteri, Yombeni yele lukala bolo.
C'était Aminata d'Aïcha Koné, cette icône de la musique ivoirienne qu'on ne présente plus. Aïcha Koné chante principalement en Senoufo et en Dioula. On revient à l'actualité de la semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Élisée Odialé, journaliste indépendante, Monsieur Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur national et porte-parole du panel des experts de la société civile, et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. L'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux AIDF salue les projets de création d'un mécanisme national de prévention de la torture. Ces projets, portés par le ministère des droits humains, visent à mettre en place une institution d'appui à la démocratie pour faire régulièrement et en toute indépendance le monitoring de tous les lieux de détention en RDC. Entre-temps, Martha Poubi, sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique, a indiqué lundi 26 juin à New York qu'au cours des trois derniers mois, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué à se détériorer à l'Ituri et au Nord Kivu, malgré une accalmie dans les affrontements entre les rebelles du M23 et les forces armées de la RDC. Par ailleurs, Martha Poubi s'est dit particulièrement alarmée par la restriction de l'espace civique et l'augmentation des discours de haine en cette année électorale. Elle s'est dit également préoccupée par les rapports faisant état d'une augmentation de la violence à l'encontre des femmes, des leaders politiques et des activistes. À ce sujet, elle appelle les autorités, la société civile et les acteurs politiques à œuvrer à la promotion d'un espace civique pacifique, tolérant et inclusif, en particulier à l'approche des élections de décembre 2023. Dieudonné Mouchagaloussa, vous avez souhaité nous parler de la situation des droits humains en RDC. On vous écoute. Voilà, apparemment il est parti. Madame Élisée Odia, votre analyse par rapport à la situation des droits humains en RDC aujourd'hui?
C'était pas mieux avant. C'est pas mieux aujourd'hui, et surtout à l'approche des échéances électorales, on peut se rendre compte quand même de l'exacerbation de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, dans notre pays. Et je crois que, puisqu'on parlait tout à l'heure du dernier message ou discours du président de la République à Mbujimayi, le dernier message du président de la République n'a pas non plus arrangé la situation. Quand le président de la République, Félix Tshisekedi, fils de son père, de surcroît, chantre de la démocratie, de l'état des droits et de la liberté d'expression, de pensée, arrive à dire tout haut que s'il faut marcher sur le droit humain, on le fera. S'il faut priver les gens des libertés, on le fera. Je m'attendais à tout, mais sauf à de tels propos. Et ma crainte, c'est de voir ces propos être pris comme un go, être pris comme un cutus que le président de la République donnerait à certains Congolais ou à certains de ses partisans pour commencer à passer à l'acte. Et je crois que le pays n'a pas besoin de ça. Il y a eu un grand pas qui a été fait dans s'agissant, par exemple, le respect des droits humains et s'agissant la liberté d'expression, s'agissant la liberté de la presse, s'agissant la liberté de penser, de dire. Et qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve avec le président Tshisekedi en train de dire ça, je l'écrivais récemment, il a quand même réussi en une phrase à enterrer l'état de droit dans notre pays, mais c'est pas encore tard. Le président et le gouvernement peuvent encore se rattraper, réaffirmer le caractère démocratique de notre pays. On ne parle pas du libertinage, mais on parle de ces droits fondamentaux de chacun qui doivent être respectés dans un État qui se dit État de droit et dans un État qui se dit État démocratique. Et c'est pas en vain qu'on s'appelle la République démocratique du Congo. C'est pas en vain que l'actuel président de la République a battu campagne sous le slogan État de droit. J'espère que il va s'en rappeler. Le pays a besoin de marcher selon les lois, selon les normes, pas selon les humeurs, comme on tend maintenant à le voir ici, pas selon les soupçons, parce que c'est ce qu'on entend, telle a dit ceci, donc je soupçonne que forcément il doit être, oh mais parce que telle a écrit ceci, donc forcément non, dans un état de droit, le soupçon n'a pas sa place, les humeurs n'ont pas leur place, ce sont les lois, c'est la constitution qui doit primer, c'est la justice qui doit primer, ce n'est pas le président de la République qui doit faire la loi, c'est un autre pouvoir qui doit faire justice, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire qui existe, donc que chacun dans notre pays puisse jouer sa partition.
Merci.
On a déjà une bonne partie du pays qui est occupée. On n'a pas non plus qu'on puisse continuer dans la restriction de nos libertés. Le pays n'a pas besoin de ça. Et comme je le disais tout à l'heure, lors de ma précédente intervention, à ce niveau-là aussi, le président peut faire un marche arrière, faire un mea culpa, dire que peut-être que sa langue a fourché, parce qu'on pouvait s'attendre à tout, mais pas entendre le président Tshisekedi, fils de Chen Tshisekedi, celui qui a toujours milité pour l'état de droit, crier haut et fort qu'il n'hésitera pas à brimer les gens, qu'il n'hésitera pas à bafouer les droits humains, qu'il n'hésitera pas à passer outre les libertés individuelles. Mais... ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre ni attendre du président de la République, et donc j'espère qu'il va faire marche arrière et il va essayer de réaffirmer la détermination de la RDC à être cet État qui respecte les lois et les libertés conformément à la Constitution.
Merci Madame Élisée Odia. Djedono Mouchagalouche, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là. Je suis là.
Donc on vous écoute, hein, vous qui avez souhaité nous parler de la situation des droits humains aujourd'hui en RDC.
Oui, il faut saluer la brillante intervention d'Élisée Odia qui vient de m'arracher les mots. On dirait qu'on a fait une communion d'esprit par rapport à cela, ce qui prouve à suffisance que la convergence sur la dénonciation, sur les regrets que tout le monde peut constater par rapport au discours du chef de l'État, cette convergence reste la même pour tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité ou de la société civile. Personne ne peut accepter qu'on puisse freindre la liberté. Personne ne peut accepter qu'on puisse menacer, qu'on puisse décider de violer les droits humains, parce que vous savez très bien que la constitution de notre pays et au-delà de la constitution, les instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacrent les idées fortes sur la liberté, sur le respect des droits humains. Avant même de parler de l'organisation du pouvoir dans la constitution de notre pays, le premier élément c'est la souveraineté et notre État. La deuxième idée forte c'est sur le respect des libertés, le respect des droits humains. Et donc le président de la République ayant menacé, ayant dit clairement qu'il va effreindre, qu'il va frapper fort sur tous ceux qui doivent dénoncer, sur tous ceux qui se battent pour la liberté, on réalise finalement que ce qui s'est passé donc n'est pas différent, n'est pas loin de son discours, et il y a lieu de craindre l'avenir de notre pays. Pourtant la RDC, comme venait de le dire Élisée Odia, c'est la République démocratique du Congo, et donc nous sommes dans un État démocratique, nous sommes dans un État de droit. Nous avons l'obligation d'aider le président de la République pour pouvoir tisser fort notre pays dans les concerts des nations modernes et non pas amener la RDC dans un état voyou, dans un recul démocratique. Nous avons l'obligation de pouvoir parler des faits en ce qui concerne la répression des manifestants, en ce qui concerne la détention au-delà du délai, comme je l'ai dit, en ce qui concerne les bévues, en ce qui concerne les forfaitures des services des renseignements des services militaires, en ce qui concerne des allégations, en ce qui concerne l'instrumentalisation de la justice et les cas, nous pouvons les citer. Vous savez que notre collègue Barnabé est toujours maintenu à la prison de Makala en dépit de la grâce qu'il a obtenue du président de la République, mais il est toujours maintenu. Vous avez les cas de Franck Diongo qu'on venait de prendre dans des conditions déplorables que nous ne pouvons pas imaginer. Vous avez suivi sa maman, ce qu'elle a dit. Nous avons les cas de Salomo Idi Kalonda, le bras droit de Moïse Katumbi. On a accusé de détenir une arme. Mais plus tard, le sénateur et candidat président de la République, Matata Ponyo, va dire que cette arme appartenait à son garde du corps. Et donc, il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus d'éléments qui peuvent justifier que Salomo Idi Kalonda continue à rester dans les geôles de la prison d'Indolo parce que les motifs qu'on l'a accusé a été balayé. Vous avez le cas de Marc Kabound, vous avez le cas de Fortuna Biselele qui est malade, qui est en prison. Donc même les droits des prisonniers ne sont pas respectés, qui demandaient d'être évacués pour des soins de santé. Vous avez le cas de l'honorable Mike Mukebayi. Vous avez le cas des opérateurs miniers qu'on a enlevés à Bukavu, parmi lesquels se trouve une femme enceinte qui n'a rien à faire avec les opérateurs miniers, mais qui s'est retrouvée au mauvais endroit et au mauvais moment. mais qui continue à croupir dans les geôles de la prison de Ndolo. Vous avez le cas d'un agent de la DGM, Gustave Biringingwa, qui est en prison de Makala pendant plus d'une année, mais qui n'a jamais été auditionné. Donc, les cas sont tout à fait légion. Et nous pensons, c'est là où j'ai rejoint ma sœur Odia, pour dire qu'il n'est pas tard que le président de la République puisse décrisper la situation actuellement sur les droits de l'homme, en ordonnant, en autorisant la libération de ces gens, mais également le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ne pas citer un média où il avait intervenu pour dire qu'il va humaniser les services de renseignement. On constate aujourd'hui la demi-heure peut commencer à arrêter des civils qui n'ont rien à faire avec les renseignements militaires. Donc c'est un dérapage.
Merci Josué Blaise Marantac. On va finir cette émission avec vous. Comment les États africains peuvent-ils améliorer la situation des droits humains dans leur pays?
Les droits humains ne peuvent être améliorés que si les rapports de force sont maintenus sous la pression de chaque pays. Les lois sont la conséquence du rapport de force sur le terrain. Si on prend un troisième mandat, ça veut dire que le rapport de force sur le terrain n'est pas favorable. Si on change la constitution pour rester au pouvoir, c'est que le rapport de force n'est pas favorable à la population à ce moment précis. Si les prisons sont pléthoriques et que depuis on n'a pas pensé les enlever des centres urbains pour les mettre quand même, c'est des centres de rééducation en zone à périphérique, c'est que les rapports de force ne sont pas encore favorables. Et qu'on peut arriver à fouiller une rédaction d'un journal sans l'avis du procureur de la République et du président de l'Union des journalistes, à entrer dans le cabinet d'un avocat sans l'avis du bâtonnier, ça veut dire que le rapport de force dans le pays est toujours du côté des forces de la répression et non des forces de la démocratie.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Dieudonné Mouchagaloucha, à Madame Élisée Odia et à Monsieur Josué Blaise Mangakak d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et de Debs Vita. À la présentation Guy Maté sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sobujango et d'Étienne Rogéry. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Ayant droit de Outamaï, chanson sortie en 1980 dans l'orchestre Ok Jazz, et on se retrouve le samedi prochain.
Basala kana yo lelo boka bwana poninyo ekomi kala na bakomi kolanda yo na nsima o. Naleli yo mama, basusu seki kolisa bakoloka te na koka o. Mema na nga ya kanda na bomba kate motema o. Tika na bimisa nyoso polele ziko mwasi, makanye si mingi yo mama o.
Bakalifikasyon yo soya mabe, mazoto na bay, na kipate.